France Culture. Question du soir, Quentin l'a fait.
Avec la hausse du niveau d'éducation, la tolérance progresserait en France d'après le dernier rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Mais certains préjugés demeurent tenaces relatives à la Commission. Alors si le racisme est un fléau qui a traversé les siècles sous différentes formes, peut-on pour autant dire qu'il s'agit d'un phénomène universel, d'une réaction innée partagée par l'ensemble de l'humanité? Pour répondre à cette question, pour tenter de savoir quand le racisme est véritablement né, un invité ce soir, Francisco Bettencourt, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, professeur au King's College de Londres, auteur de très nombreux ouvrages sur le racisme, et vous faites paraître un ouvrage important intitulé « Racisme au pluriel, des croisades au XXe siècle », c'est aux éditions Arpa. Merci d'être venu ce soir dans « Questions du soir ». Ce qu'on entend là, Francisco Bettencourt, c'est le générique de Pokémon, un générique que j'aimais bien, mais qui se trouve avoir été utilisé par les organes de communication de l'administration américaine pour comparer la façon dont cette administration abordait désormais les migrants dans le pays, comme il les considère désormais comme des Pokémon. La chasse est lancée contre les immigrants, comme la chasse est lancée dans cette fiction contre les Pokémon. Comment vous aborder ce sujet et surtout cette animalisation américaine des migrants?
Je crois que c'est lamentable parce que après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la Déclaration universelle des droits humains des Nations Unies et cette déclaration a produit une rupture concernant l'appui juridique et institutionnel dont le racisme bénéficiait avant la Deuxième Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, cette déclaration a été reproduite, c'est inscrite dans toute législation pratiquement du monde, et il y a une norme antiraciste de jamais diminuer l'être humain, de jamais inférioriser et de comparer les êtres humains à des animaux. Donc, nous sommes des animaux, évidemment, mais diminuer le statut de l'être humain et la dignité humaine. Donc, ce qui se passe très récemment est une violation du cadre législatif international et quelque chose qui diminue l'administration américaine elle-même. Donc, comment on peut proclamer qu'il s'agit d'un pays libre et d'un pays leader apparemment ou supposément du monde libre lorsqu'on agit de cette façon en violation des normes interne des États-Unis et des normes internationales?
Voici ce que vous écrivez, Francisco Bettencourt, dans votre dernier ouvrage. Je vous cite « Les migrations ne sont pas combattues par des arguments physiques, mais par l'idée d'un retard culturel et de l'incapacité des gens à s'adapter. L'argument de l'infériorité a été abandonné dans le débat politique. Les immigrés sont plutôt accusés de bénéficier d'une aide sociale qui ne leur est pas destinée. » Fin de citation. Comment est-ce que vous expliquez historiquement l'histoire, en tant qu'historien, cette bascule que vous dessinez là?
Parce que l'argument d'origine biologique des différentes races a été complètement abandonné après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'est prouvé, et maintenant encore plus, avec la recherche génétique, donc c'est prouvé qu'il n'y a pas de base scientifique. Il n'y a pas de différence biologique entre des races. La notion de race est une construction sociale qui n'existe pas dans la réalité. Et donc, c'est l'idée de revenir... donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas d'argument biologique. Et cet argument a été remplacé par l'argument culturel. que les migrants ne sont pas préparés, ne s'adaptent pas, qu'ils ne sont pas capables de s'insérer dans une société complexe. Et cet argument culturel est un argument aussi qui reflète des préjugés. Parce que les gens s'adaptent parfaitement. C'est pas ça le problème. Les gens s'adaptent parfaitement et deviennent assez capables. Il y a une question, comme disait Amartya Sen, de capacité.
De capabilities, il disait.
Capabilities. Et donc, capacité et habileté. Et donc, il y a une progression énorme des populations du monde qui deviennent au même niveau de capacité intellectuelle, de capacité éducationnelle, de capacité scientifique. Donc nous savons comment il y a un élargissement de toutes ces capacités.
Alors faisons de l'histoire, grâce à vous Francisco Bettencourt, vous signez, je le disais, un livre intitulé « Racisme au pluriel ». Commençons par le début, le racisme au singulier, comment est-ce que vous le définissez ?
Le racisme est un préjugé concernant l'ascendance ethnique combinée avec l'action discriminatoire. Donc il y a deux éléments dans mon notion, parce que je suis historien. Je ne peux pas interroger les gens du passé et il me faut identifier des situations qui combinent le préjugé ethnique avec l'action discriminatoire. Donc les deux sont très importants pour considérer cette situation de racisme.
Commençons, grâce à vous, par déconstruire quelques fausses idées. J'ai appris en vous lisant que le racisme, le mot, le substantif, était un mot relativement récent, puisqu'il oui. naît entre 1890 et 1900. Pourquoi et dans quel contexte ?
C'est le moment, le 19e siècle, et surtout la fin du 19e siècle, est le moment de l'affirmation d'une idéologie des races. Donc, et ça a commencé avec 1848, avec la révolution libérale et avec un idéal égalitaire, et immédiatement qui a secoué toute l'Europe. Et après, il y a eu une énorme réaction conservatrice. Et Gobineau a publié son essai.
Gobineau, grand penseur, français des races et de la hiérarchie des races.
Oui, oui. Et qui a publié son essai sur l'inégalité des races humaines. Mmh. Il a publié en 1851 comme une réponse à la révolution de 1848, parce que son argument est que l'inégalité est dans la nature humaine. Et les races sont une projection de cette inégalité. Et donc, la deuxième partie du 19e siècle développe cette idée d'une inégalité raciale qui est innée, qui ne change pas. Et cette idée conduit directement, est absorbée par les Américains et par la Confédération du Sud, mais conduit directement à Hitler. Donc, nous avons cette idée d'un conflit de race produit avec d'autres idées, par exemple l'arianisme, la suprématie blanche et l'arianisme qui serait derrière la suprématie allemande avec Hitler, avec les nazis. Donc il y a tout un développement de ces idées de race qui veulent remplacer les idées de conflit de classe. C'est le vrai conflit idéologique de la deuxième moitié du 19e, de première moitié 20e, c'est entre une vision de conflit de classe et une vision de conflit de race. Le conflit de race voulait complètement dissoudre l'idée de conflit social.
Une autre idée que votre ouvrage bat en brèche, Francisco Bettencourt, idée selon laquelle, au fond, le racisme serait une donnée universelle qui concernerait toutes les populations, toutes les époques et serait pratiquement innée à l'espèce humaine. Est-ce que cela, vous le remettez en cause ?
Complètement, dès le début. Parce que je crois que c'est... C'est pas prouvé, d'abord. Il n'y a pas d'éléments qui prouvent un caractère inné et universel du racisme. Au contraire, les gens qui ne sont pas exposés maintenant à des préjugés racistes n'ont aucun problème concernant les différences de peau, de couleur de peau ou les différents phénotypes.
Il a existé dans l'histoire des sociétés non racistes ?
Évidemment. Il y a un petit peu d'ethnocentrisme ici et là, mais ce niveau d'ethnocentrisme endurci et qui se perpétue de génération en génération, qui refuse une intégration individuelle ou d'éléments d'une autre ethnie, et qui élargit la notion ethnocentrée. Avec une racialisation de groupes humains très large. Donc, cette notion n'est pas partagée par toute l'humanité. Et ce qui m'a intéressé était de comprendre comment le racisme s'est produit avec des circonstances historiques très précises. Parce que l'existence d'émeutes, l'existence d'une offensive contre des catégories humaines, l'existence d'un conflit politique très violent qui définit le racisme est très spécifique.
Alors justement, faisons ensemble cette histoire, tentons de comprendre comment le racisme a surgi, s'est formé, s'est cristallisé. Il s'est joué quelque chose d'important, selon vous, au moment des croisades, car à travers ces croisades, il y a eu un besoin d'identification religieuse et ethnique visant à définir un ennemi et à l'abattre. Racontez-nous justement ce qui s'est joué au moment de ces croisades, dans la configuration de la matrice raciste présente.
Bon, il y a une colonisation interne de l'Europe, parce qu'il y a la conquête chrétienne de Sicile et de la péninsule ibérique. Il y a l'expansion au nord d'Europe, il y a l'expansion contre les Irlandais aussi. Et ces populations minoritaires ont été soumises par l'expansion chrétienne. Donc, et déjà, il y a eu une racialisation des musulmans en Sicile et dans la péninsule ibérique. Il faut dire que les communautés juives avaient une descendance commune, un partage, mais les populations musulmanes, leur passé, étaient multiples, avaient une origine ethnique multiple. Et donc, il y a eu une racialisation de ces communautés musulmanes. Et après, c'était les croisades occidentales, et aussi dans la Terre Sainte. Et après, avec la conversion forcée, violente, des Juifs en Castille, en Espagne, en Portugal, depuis la fin du XIVe siècle jusqu'à la fin du XVe siècle, et la conversion forcée des musulmans qui sont restés en Espagne, aussi un petit peu plus tard, nous avons une situation de rejet des meutes contre ces convertis et la production de statuts de pureté de sang. Il n'y a rien de plus clairement raciste que l'idée de pureté de sang.
Alors, il faut faire un pas en arrière pour bien comprendre. Si l'on se situe désormais dans l'Antiquité grecque, romaine, est-ce que ces sociétés-là étaient traversées du même racisme que vous décrivez là? Et notamment, il y a une notion que vous mettez au centre de votre réflexion, c'est celle de l'ascendance. Qu'est-ce qui différencie justement l'approche par l'ascendance qui caractérise ces sociétés antiques de la notion de racisme qui caractérise la période des croisades?
Dans la période grecque et romaine, il y avait des préjugés ethniques, mais il n'y avait pas une discrimination systématique.
Pas de racisme?
Je dirais pas de racisme, mais il n'y avait pas une discrimination systématique. Il y a eu des empereurs romains qui venaient du Moyen-Orient. Donc, il y avait des préjugés contre des populations du Moyen-Orient, mais pas un racisme systématique.
Pas d'esclavage fondé sur la différence de couleur de peau?
Il y avait de l'esclavage, mais il y avait l'esclavage d'Africains, il y avait l'esclavage dans le monde grec des Slaves.
Mais ça, c'est bien du racisme, non ?
Et le mot esclave vient de Slaves. Donc, il y avait des préjugés, mais ce n'était pas systématique. La discrimination n'était pas systématique, à mon avis. J'ai des collègues, Benjamin Isaac, qui soutient que c'est du racisme. Moi, je ne vois pas une discrimination systématique, mais je reconnais qu'il y a des préjugés déjà dans le monde grec et romain. Ce qui est nouveau dans le cas ibérique surtout, c'est que la rivalité religieuse est devenue quelque chose d'autre et avec les statuts de pureté de sang de ceux qui ont été convertis par la violence. Et donc, il y a une violation du point de vue chrétien du sacrement du baptême qui supposait ouvrir finir avec les péchés précédents et ouvrir la voie de la salvation. Mais nous avons un racisme qui est plus clair à ce moment-là des statuts de pureté de sang.
Je voudrais vous emmener en Ibérie au XVe siècle, en 1449, considéré comme le moment où surgit le premier statut contre les convertis. On écoute un extrait de la série documentaire intitulée « La naissance du racisme », signé Stéphane Bonnefoy.
Il nous revient de déclarer et nous déclarons, établissons et ordonnons que tous les dits convertis, descendants du lignage pervers des Juifs, de quelque type qu'ils soient, en vertu du droit canon et du droit civil qui détermine contre eux ce qui suit, comme en vertu des privilèges que le roi de Castille et Léon, Don Alphonse, a accordés à notre ville, qu'ils soient tenus pour infâmes, inaptes, incapables et indignes d'exercer toute charge ou fonction publique ou particulière dans la ville de Tolède. Qu'ils soient tenus pour infâmes, inaptes et incapables de prêter foi comme notaire public ou comme témoin. Nous ordonnons qu'ils soient privés de toute charge et fonction qu'ils auraient eue de quelque façon que ce soit dans notre ville.
Alors pourquoi l'historien que vous êtes, Francisco Bettencourt, identifie là le premier cas de racisme précoce ? Racontez-nous.
Bon, je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas totalement de racisme avant, mais c'est un cas clair. On pourrait prétendre qu'il y avait une rivalité religieuse, mais là, c'était des gens convertis et les statuts ont été créés contre des gens convertis. C'est la première fois et ça viole la notion universaliste de la religion chrétienne. C'est la première fois que des populations entières ont été ciblées et bloqué du point de vue mobilité sociale. Donc je crois qu'il y a un changement d'attitude.
Quand est-ce que l'on commence à classer les êtres humains selon différentes typologies ? Vous identifiez justement la naissance, le surgissement de ces typologies-là au Moyen-Âge notamment ?
Oui, mais il s'agit d'une typologie qui concerne des communautés minoritaires. C'est un racisme de concurrence.
C'est-à-dire ?
Qui veut exclure des compétiteurs. Parce que les populations d'origine musulmane et d'origine juive étaient très compétentes. Et du point de vue technique agricole, du point de vue technique de l'artisanat, du point de vue commerce, technique du commerce, du point de vue financier. Et donc, ces statuts de pureté de sang relevaient d'un racisme de concurrence, d'exclusion de gens compétents, de groupes compétents. Le racisme suivant relève de l'expansion externe européenne.
Les projets coloniaux, donc.
Les projets coloniaux externes à l'Europe. Et là, nous avons la traite d'esclaves d'Afrique. Nous avons les projets de colonisation de l'Amérique, de l'Asie, plus tard de l'Afrique même. Et dans ces projets, il y a un racisme de légitimation de la nouvelle division internationale du travail. C'est pour cela que je parle de la pluralité des formes racistes. Parce que dans ce cas-là, ce n'est pas la compétition interne, la concurrence, mais c'est la légitimation des populations qui sont esclavisées, qui sont mises dans une situation de dépendance. Et les Européens ont aussi un but de justifier cette dépendance.
Pour comprendre comment le racisme se construit selon les époques et selon les régions, il faut changer d'époque justement et de géographie. Aux États-Unis, comment la classification entre noir et blanc, entre blanc et noir, s'est-elle imposée pour rendre plus commode, plus aisé l'esclavage ?
C'est déjà le tournant entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Ce n'était pas au tout début, mais nous avons une législation qui commence à être plus serrée et qui refuse l'émancipation des esclaves au début du XVIIIe siècle. Et ça contraste avec, s'oppose à ce qui se passait dans le monde espagnol et portugais. Je ne veux pas dire que l'esclavage était plus souple, il n'était pas, les méthodes étaient les mêmes, mais il y avait un degré possible d'émancipation. Et ça a été refusé du côté de l'Amérique britannique. Et les Français étaient un petit peu au milieu de ces deux modèles, le modèle ibérique et du modèle anglais. Ils ont passé d'un côté à l'autre. Mais ces classifications sont importantes parce qu'ils ne laissaient pas beaucoup de flexibilité dans le système. Et le système est devenu très serré, ce qui signifie qu'aux États-Unis aujourd'hui, une personne avec un ascendant africain, il y a quelques générations avant, est considérée comme noire. Au Brésil, la personne qui a des moyens, qui est classe moyenne, qui a des ascendants africains, est considérée blanche.
Je voudrais vous faire entendre l'extrait d'un film intitulé Vénus Noire, un film d'Abdelatif Kechiche sorti en 2010. On y entend l'anatomiste du XVIIIe siècle, Georges Cuvier.
La tête offre des moyens plus sûrs de distinction parce qu'on a mieux étudié. C'est d'après elle que l'on a toujours classé les nations. Et à cet égard, notre Boshiman offre des différences très remarquables et très singulières. Je n'ai jamais vu de tête humaine plus semblable au singe que la sienne. Ce qui est bien constaté dès à présent et ce qu'il est nécessaire de redire, tant l'erreur contraire se propage dans les ouvrages les plus nouveaux, c'est que ni ces Galas, ni ces Boshiman, ni aucune race de nègres n'a donné naissance au peuple célèbre qui a établi la civilisation dans l'antique Égypte, et duquel on peut dire que le monde entier a hérité des principes des lois, des sciences et peut-être même de la religion. Je présente ici une tête de momie pour que l'Académie puisse en faire la comparaison avec celle d'Européens, de Nègres et de Hottentots. Je vous en prie.
Il faut raconter aussi comment la science occidentale a participé à renforcer ces catégories racistes.
Tout à fait. Mon idée, c'est que le racisme précède les théories des races, mais les théories des races renforcent les idées et les préjugés et les procédures racistes. Donc, nous avons écouté un extrait de Cuvier, qui était un scientiste très important vers la fin du XVIIIe siècle et XIXe, et il avait une position prédominante. Il est bien connu parce qu'il avait une vision rigide des races. Il considérait que les races étaient hiérarchiques, avait des niveaux de compréhension, d'intelligence et des capacités physiques et mentales différentes. Et ça s'opposait complètement à Lamarck, qui était plutôt du côté d'une vision de transformation permanente de la nature et qui a ouvert la porte aux idées évolutionnistes de Darwin. Mais toutes ces idées de Cuvier sont des idées qui vont être absorbées par des Américains des États du Sud pour justifier l'esclavage. C'était des êtres qu'ils considéraient inférieurs, des esclaves naturels, comme disait Aristote. Et donc, c'est tout le courant Cuvier, Agassiz à Harvard, et après Chamberlain, jusqu'à Hitler et les nazis allemands, qui soutient cette idée de rigide, de hiérarchie des races.
D'un mot, Francisco Bettencourt, si le racisme n'est ni universel, ni inné chez l'être humain, est-ce que cela signifie que vous êtes optimiste sur notre capacité à le combattre, à le repousser, peut-être un jour même à l'annihiler ?
Ce serait bien. Le problème, c'est que ma thèse et mon argumentation est que le racisme est mobilisé par des projets politiques. Donc, ce n'est pas inné, mais il y a des préjugés qui sont mobilisés pour l'action discriminatoire. Et cette action discriminatoire est toujours liée à des projets politiques, de monopolisation des ressources.
On recommande donc la lecture de votre ouvrage qui fera débat sans doute intitulé « Racisme au pluriel, l'histoire du racisme des croisades au XXe siècle ». C'est aux éditions ARPA. Merci à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Roxane Poulain, Bertie Bourdon, Rodi Eken à la réalisation, Léa Racine et Félix Delacour ce soir exceptionnellement à la technique.